Hello everyone, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance, épisode 84. On va parler de le 15h17 pour Paris, également jusqu'à la Garde. Alors pourtant on s'était dit, il faut vraiment qu'on se fixe un seul film et qu'un seul film par semaine, parce que sinon ça veut dire se bloquer 2 heures de plus pour voir un autre film et donc enregistrer encore plus, donc se parler par Skype encore plus, et on se déteste, hein, il faut le savoir, on se déteste tous, Jean-Yves, Arnaud et moi, donc le moins de temps on passe ensemble, le meilleur c'est, mais voilà, rien que pour vous, et rien que surtout parce que le 15h17 pour Paris est vraiment nul, il fallait qu'on se récupère de la passion pour le cinéma sur autre chose, et c'était jusqu'à la Garde. On a également parlé de quelques séries et films en vrac, notamment Nathan For You, The Jinx, The Life and Death of Robert Durst, La Casa de Papel, The Defiant Ones. Vous pouvez tout suivre dans le descriptif comme d'habitude. Abonnez-vous au Facebook, au Twitter et à l'Instagram, c'est @fin de séance, c'est très simple, donc voilà, un petit clic et ça rajoute du like. On est disponible sur toutes les plateformes de podcast existantes, donc le Podcast Store pour ceux qui ont du Apple, et toutes les applications de podcast Android. On est également même sur Deezer, Stitcher, TuneIn, et sur la radio cinémaradio.net qui passe plusieurs podcasts d'ailleurs de ciné, dont le nôtre, et également beaucoup de musique de film, donc c'est vraiment assez cool de mettre ça en fond si jamais vous cherchez un petit fond sonore dans votre vie parce que vous ne supportez plus le silence parce que ça vous laisse seul avec vos pensées. Bon bah voilà, bah, du coup vous mettez cinémaradio.net. On peut aussi mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur iTunes. Voilà, vous recherchez fin de séance et puis vous mettez 5 étoiles et ce que je viens de dire, un commentaire sympa. Dites-nous ce que vous voudriez avoir comme prochain oldies but goodies, pourquoi pas, et comme ça vous êtes sûr que c'est écrit quelque part et qu'on va donc vous obéir, parce que tout ce qui est écrit sur iTunes, on est obligé de le suivre, ok? En attendant, je vous souhaite une très bonne écoute de cet épisode et une très bonne semaine. Bisous à tous. Je réalise que c'est 20 minutes en fait, donc je peux vraiment attendre avant d'arriver à la séance, quoi. C'est quand même bâtard. Non mais attends, mais 20 minutes de pub, quoi, que de la pub Toyota dont j'en ai rien à branler. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, quoi. On vit dans un monde ultra capitaliste, hein.
Et voilà, moi j'ai vu la bande-annonce de Red Sparrow avec Jennifer Lawrence, ouais. Et voilà, j'ai bien bavé devant l'écran. Voilà.
Mais par contre, ouais, on est d'accord que ça ressemble à un film de propagande anti-russe des années 50, quoi, en fait.
Alors, c'est très bizarre, ouais. En fait, on dirait Atomic Blonde, mais pas esthétisé, tu vois. Non, t'as pas trouvé un peu, Jean-Yves ?
Si, si, ouais, c'est vrai, ouais.
Et on dirait un épisode genre des The Americans, quoi.
Mais ouais, c'est vrai,
regardez,
ouais.
The Americans à la place.
Ils parlent tous en russe avec l'accent en anglais avec l'accent russe, tu sais. Et Jennifer Lawrence, j'ai réalisé que Russie n'est pas très pour les libertés. Moi maintenant travailler États-Unis.
Mais pour le coup, physiologiquement, elle a un vrai visage de poupée russe, donc c'est vachement crédible, je trouve, Jennifer Lawrence.
C'est vachement crédible. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Elle fait ses classes, là, genre,
moi, elle
fait
est arrivée, son footing. J'ai acheté. J'ai dit oui à tout ce qu'elle disait. J'ai dit oui, je viendrai.
en fait, c'est ça. Elle pourrait jouer n'importe... Elle pourrait jouer Abraham Lincoln et tu dirais, ouais moi, j'achète. Hein.
J'achète. Oh, la barbe qu'ils lui ont faite, vraiment. Plus, elle a un visage poupin comme Lincoln, ça se voit. N'importe quoi. Ouais, non mais elle a la gueule trop gentille en fait, d'ailleurs, pour faire une espionne qui est... Ouais. Enfin, moi je sais, si je suis le handler russe du KGB, je vais dire bah toi tu rentres pas. Ça se voit que t'es trop gentil. Tu vas nous trahir, tu vas trahir la mère patrie. Rentre à la maison, va faire pousser des patates et prends tes tickets de rationnement comme tout le monde. Tu vois. Bon, est-ce qu'on peut parler de 15h17? Je viens de sortir de la séance de Jusqu'à la Garde et je t'avoue que là, 15h17 pour Paris que j'ai vu
moi, j'avais
jeudi.
Des news encore, mais.
Ah, voilà, pardon, t'avais des news.
Donc, et voilà, okay, on en arrive,
Faut jumper sur le truc, là, excuse-moi.
Non, mais rapidement, les deux petites news que je voulais partager avec vous qui m'égayent ma journée, c'est que la première, c'est que Jean Dujardin a officialisé l'OSS 117 numéro 3 cette semaine, voilà. Donc, Hubert Bonisseur de la Batte va rechausser le costume. Donc ça, c'est la super bonne nouvelle. Deuxième autre nouvelle assez marrante, ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle parce que on sait pas ce qu'elle a donné, mais Jordan Peele est en train de parler sérieusement de faire Get Out 2. il en a parlé très sérieusement dans une interview. Et soi-disant, le prémisse, ça serait que ça partirait de. Et en fait, c'est marrant parce que à la fin du film, je me posais la question, je me disais, mais qu'est-ce qui se passerait si le personnage principal était genre devait faire un debrief avec la police racontée, tu vois. Et en gros, il dit que le prémisse, ça serait le héros de Get Out qui est auditionné par des flics pour raconter ce qui s'est passé, tu vois. Donc voilà, c'était un truc que je trouvais assez sympa.
Je sais pas, j'espère que je vais avoir assez à dire pour 15h17 pour Paris. Parce
alors
que
moi aussi,
je, comme je ressors de, que je le disais tout à l'heure, je ressors juste de Jusqu'à la Garde qui est très bien, à une fin vraiment très prenante. Donc là, 15h17 que j'ai vu jeudi, je t'avoue que, je sais pas, c'est comme si j'étais vraiment juste dans un train en train de dormir, quoi. Donc, voilà. Alors commençons donc par ce nouveau dernier film de Clint Eastwood, le 15h17 pour Paris, pardon, j'avais oublié le très important, sorti le 7 février 2018 avec Anthony Sadler, Alex Carlatos et Spencer Stone, un drame thriller américain. Dans la soirée du 21 août 2015, le monde sidéré apprend qu'un attentat a été déjoué à bord du Thalys 93-64 à destination de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en Europe. Petit clip.
Votre héroïsme doit être un exemple pour beaucoup et une source d'inspiration. Face au mal qui est là, qui s'appelle le terrorisme, il y a un bien, celui de l'humanité, c'est celui que vous incarnez. Anthony Sadler, vous avez résumé hier mieux que personne ce que nous pouvions retenir de ce qui s'est passé vendredi soir dans le Thalys. Vous avez dit, la leçon qu'on doit retenir, c'est que dans un moment de crise comme ça, j'aimerais que les gens comprennent qu'il faut faire quelque chose. Oui, il faut faire quelque chose.
Alors moi déjà j'apprends que le monde était sidéré. Moi en général quand j'apprends qu'un attentat a été déjoué, je fais bon, ok, cool, bonne nouvelle et je reprends ma vie normale, tu vois. Mais bon, il semblerait que
moi j'étais complètement sidéré.
Sidéré. Ouais, je me souviens sidéré. Pendant une semaine on n'a pas pu te discuter avec toi, t'étais sidéré.
J'étais sidéré quoi. Je regardais le mur toute la journée.
Il se balançait en position fœtale. heureusement que les Américains étaient là. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de 15h17 pour Paris? Le 15h17 pour Paris, pardon.
Moi, quand je suis... En fait, durant ce film, j'ai eu plusieurs phases.
La première.
D'abord, il y a une première partie, tu sais, qui se passe durant la jeunesse des héros.
Oh là là.
Et là, en fait, franchement, je pense que c'est un des trucs les plus mauvais que j'ai
c'est
vu de ma vie,
inadmissible,
quoi.
Inadmissible.
Et en fait, j'étais pas en colère ou quoi que ce soit, j'étais juste triste. J'étais triste de voir Clint Eastwood faire quelque chose comme ça. Je sais pas du tout ce scénario, ce que c'est. Ensuite, il y a une deuxième partie du film où pendant quelque chose qui a l'air de durer des heures, en tout cas, on voit des Américains faire leur backpack trip.
Moi, c'est mon moment préféré. C'est
tout autour de l'Europe.
C'est mon moment préféré.
Et qui font en fait tous les trucs les plus clichés. Ils ne font que les trucs les plus clichés possibles et ils les enchaînent à une vitesse ahurissante. Et quand j'ai vu cette partie-là, en fait, vraiment, je me suis posé la question et je me suis dit, bon, ce que je suis en train de voir, soit c'est au premier degré et c'est nul à chier, soit c'est au second degré et on touche le chef-d'œuvre, quoi. Tu vois, où il y a quelque chose. Et j'arrive pas à dépatouiller parce qu'il y a des choses durant ces parties-là qui montrent, en tout cas qui m'ont fait sembler qu'il y avait une espèce de critique de ce mode de vie, comme ça. tu vois, de ces Américains. On le voit à plusieurs moments.
Les selfies.
Ils n'arrêtent pas de parler des selfies d'Instagram, tu vois, où il y a un Allemand qui les remet à leur place en leur disant que l'histoire telle qu'elle est racontée dans les écoles américaines et de la propagande. Et donc, tu regardes ça et je me questionne. Mais la fin est tellement au premier degré sur l'héroïsme de ces héros que vraiment, je me pose des questions. Mais pourtant, ça y est, tu vois. C'est là, quelque part. Et ce film, bon, je ne l'ai pas aimé. Mais je sais pas quoi dire. Pour le coup, j'ai été un peu sidéré par ce qui se passait, par ce qui se passait dans ce film. Et en sortant, c'était vraiment une incompréhension totale de mes. Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que c'était ? Parce que, si tu veux, de deux choses l'une, soit il y a une vraie volonté, tu vois, d'essayer d'écorner ce mode de vie à l'américaine, soit, en fait, j'étais en train de voir, tu sais, comme dans les rédactions au collège ou au lycée, où en fait il faut faire 4 pages et donc tu sens que pendant 2 pages il y a quelqu'un qui raconte n'importe quoi pour pouvoir faire un peu de volume, tu vois, dans le...
Ah, parce qu'on t'a demandé 2 copies doubles, donc il faut que la première, il faut que tu mettes des trucs. Alors les phases de ce film. Alors ce film commence tout de suite par les 3 héros qui sont dans une Chevrolet décapotable. Filmé en DV, tu vois, genre qualité d'image, genre Brothers.com de l'époque, tu vois. Et là, je me suis dit, ah, mais oui, c'est vrai, c'est pas des comédiens. Je vais souffrir pendant ce film. Et là, ça bascule tout de suite sur l'enfance. Ça bascule tout de suite sur l'enfance et je me dis, ah, cool, on va avoir une partie où ça va pas être ces gars-là et donc il va y avoir des comédiens et au moins je vais pouvoir me reposer. Et là, il y a une brochette de gosses qui jouent le plus mal du monde. Ces gosses ne devraient plus avoir droit à un quelconque enregistrement vidéo de leur vie, quoi. C'est pas possible. Quand je pense au film Ça et à l'alchimie qu'il y avait entre tous les gosses et leur niveau d'acting, je vois ces 3 gosses-là. Et bon, après, j'avoue, ils sont pas aidés par les trucs qu'ils ont à dire, mais c'est vraiment c'est inadmissible, quoi. Derrière, il y a des seconds rôles qui sont plutôt connus et plutôt d'habitude pas mal, mais là, on est à un niveau de droite américaine qui est insoutenable.
Non, mais c'est les dialogues qu'ils ont à dire, on dirait vraiment des pubs chrétiennes, en fait. Il y a quelque chose de...
Et là, pour le coup, c'est très difficile à percevoir le second degré, mais j'y reviendrai effectivement pour la seconde partie. Bon, voilà, bah justement, la seconde partie, moi, j'avais l'impression de voir un... Tu sais, les émissions Netflix où il y a des gens qui font un petit voyage culinaire comme ça, tu sais, en Europe. Genre, tu vois, t'as Anthony Bourdin fait l'Europe, tu vois. Sauf qu'il n'y a pas le truc culinaire avec. Tu vois, donc c'est pas trop intéressant. Mais, et c'est vrai que j'étais comme toi, Arnaud. Alors, moi, tu sais que par rapport à American Sniper, on a un avis différent parce que moi, je vois... Enfin, je crois, en tout cas... Il y a une espèce de second degré ou de lecture plus profonde dans American Sniper. Toi, tu penses qu'il l'a fait au premier degré. Mais là, les indices sont vraiment, à part le truc du selfie, je ne sais pas quoi dire d'autre, en fait. Je ne sais pas ce qu'il veut dire sur cette nouvelle génération de jeunes, quoi. Donc... Voilà, à part que voilà, c'est bien de se reprendre en main. Je sais pas pourquoi on suit le gars qui a décidé de maigrir et de devenir militaire. Ok, d'accord, cool. Et non, mais tu vois ce que je veux dire ? On dirait que tu regardes un épisode de The Biggest Loser pour savoir si le mec va réussir à faire du sport, ok.
Ouais, en fait, le truc, c'est est-ce que son truc, c'était de dire que les héros, ils peuvent sortir de même
de partout,
le background le plus ordinaire, le moins intéressant du monde, je sais pas.
Ouais, mais après, et aussi, c'est très très empreint d'un truc divin. Alors, bien sûr, parce qu'il y a des croix partout au début, pendant leur enfance, mais aussi la destinée de ces jeunes-là.
Oui.
Parce que on ne manque aucune occasion de te dire que, ils ont vraiment, vraiment beaucoup hésité à passer par Paris. Hein, ils n'allaient pas y aller, ils n'allaient pas rater leur train, ils n'allaient pas être en première classe, ils allaient, tu vois, genre, y a eu une concordance de 1001 trucs où tu vois presque la main de Dieu les envoyer dans cette bonne rame au bon moment, et tu fais, je sais pas, enfin, pour le coup, ça peut être totalement
s'il
réel,
avait envie de...
les coïncidences.
S'il avait envie d'éviter ça, en plus, Dieu, il aurait tout simplement... pas mis le terroriste là, tu vois.
Oui, ou alors fait gagner le terroriste. Hein, c'est pour lui quand même qu'il le fait.
C'est vrai.
Non, mais,
Oui, mais Dieu a enrayé son arme. Tu comprends pas, en fait. C'est Dieu qui a enrayé les armes du terroriste.
Et le truc, c'est que je vois qu'il veut nous dire ça et je me dis, mais c'est con parce qu'il y avait mille autres façons de nous faire jouer un truc de destinée à la Shyamalan beaucoup mieux et beaucoup plus subtilement tout en ayant exactement la même, le même impact, en fait. Parce que là, le faire dire par des personnages, ben, au bout de la troisième fois, ben, je vois où tu veux en venir et je n'écoute pas les cinq autres fois, tu vois. Et la dernière partie, bon bah voilà, l'attaque du train, quoi. C'est bien mis en scène, voilà, enfin à peu près. C'est pas génial, c'est une scène d'action un peu réaliste, mais bon, j'aurais donné la caméra à Paul Greengrass, il aurait fait mieux, quoi, tu vois. Donc je sais pas.
Ou Yong Sang-ho,
ah ouais, bah voilà, dans le train,
des scènes d'action de train.
Non, c'est vrai, parce que tu vois, lui, il a vachement pensé comment faire ses scènes d'action dans le train, et là, là, je sais pas trop quoi. Et donc, en gros, c'est de la merde, quoi. Jean-Yves.
Écoute, alors moi, j'ai trouvé ce film très, très, très pénible, très lourdeau, en fait. C'est-à-dire pénible. Que vraiment, genre lourdeau, quoi. Tu sais, genre qui est lourd comme un gros sac de patates, tu vois. Très maladroit. J'ai été exaspéré par cette espèce de propagande militaro-chrétienne américaine c'est clair, hein. C'est-à-dire que moi, je suis... J'ai même pas envie d'y croire, parce que c'est... Alors, peut-être... Alors, Arnaud dit, oui, c'est peut-être le second degré. Maintenant, compte tenu des positions politiques de Clint Eastwood, j'en doute fort. C'est clairement... moi, j'ai envie de dire que c'est le train du lavage de cerveau. Il a roulé sur les rails de mon indifférence pendant tout le film avant de dérailler. Excusez-moi ce mauvais jeu de mots, mais voilà, ça déraille complètement. C'est mauvais, c'est laborieux. J'avais lu dans des critiques il y avait soi-disant la scène de fin qui vaut le coup. En fait, elle vaut pas vraiment le coup parce qu'elle est très banale, en fait. C'est-à-dire que c'est très, très décevant jusqu'à la fin. Alors c'est très bien le parti pris de prendre les vrais gars, mais ils jouent mal, donc on les encaisse tout le film, quoi. Je suis désolé, mais déjà non seulement ils jouent mal, mais moi c'est ces gens, ils représentent tout ce que je déteste chez les touristes américains, c'est-à-dire que ces gars, c'est typiquement les gars, genre ils sont dans des restaurants, ils te parlent en anglais directement parce que tu parles anglais, tu vois, c'est comme ça. D'ailleurs, personne parle français dans le film, au passage, que tu disais tout à l'heure. Et c'est le gars typiquement qui il va demander un peu plus de frites avec son tartare parce que son papy a fait le débarquement, tu vois. C'est vraiment, il y a ce truc de on a sauvé la France, mettez-nous des frites, quoi, tu vois.
Et ils ne sociabilisent qu'avec d'autres Américaines, tu sais. Ils sont heureux quand ils voient d'autres Américains et...
Non, mais même un merci, le gars n'est pas foutu de dire danke. Tu vois, quand il est dans la brasserie allemande, je comprends
pas. Mais c'est pour ça, sur cette critique, à un moment, même à une serveuse, il dit grazie or danke ou whatever you say. Ouais. Genre, j'en ai rien à foutre,
c'est le même
vois.
Pays. Le gars, mec, on est en train de parler de langues, de cultures différentes. Tu vois, genre l'Europe, tu sais.
Et puis, excusez-moi, mais là tu parlais du mauvais, la mini-série Netflix culinaire, encore plus que ça. Je dirais les portraits qui sont faits des femmes, où en fait on est censé nous faire croire que ces gars sont des sex-symboles, la gérante de l'hôtel italienne qui les regarde, genre le héros, franchement, avec sa grosse tête d'albino, son charisme de saumon, on va nous faire croire que lui, avec son charisme de patate, il a du succès avec les femmes. Non, mais franchement, je crois rêver, quoi. Genre, il parle à une meuf un moment sur un bateau, ça n'existe pas ce qui se passe, genre une meuf trop magnifique, tu sais, genre il lui parle, il dit hey, tu veux venir avec nous, et puis la fille elle va hang out avec eux
de nulle part,
toute la journée, ouais. c'est pas du tout crédible.
Attends, il y a une scène pour garder ce thème là parce qu'il y a une scène aussi ça m'a un peu choqué, en fait, dans une boîte de nuit hollandaise, où en fait, ils sont là, genre chacun a deux, trois meufs autour de lui, tu vois. Vous avez pas vu ça? Des top modèles, bien sûr, tu vois. Et tu fais genre. Et en fait, elles sont même pas filmées. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont filmées, mais c'est des meubles, tu vois. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment. Ça me met mal à l'aise un peu, cette scène.
Alors moi j'ai une théorie, j'ai une théorie sur ça. Alors moi ma théorie par rapport à ça, c'est la propagande chrétienne subliminale en fait, c'est la béatitude des personnages par rapport aux gens qui portent le Dieu en fait. Tu sais, alors comme ce gars
il est
censé porter quelque chose en lui qui va lui faire quelque chose de divin, et ben les gens vers lui. Le regardent et sont béats et, tu sais, et c'est ça. Et tu sais que ça m'a fait penser à ça quand j'ai fait ma prépa au mariage, parce que oui, mea culpa, je me suis marié à l'église et j'aurais pas dû faire, mais c'est ce qui m'avait marqué.
Sophie, si tu nous écoutes.
M'avait marqué,
Sophie n'écoute pas le podcast.
Alors ouais, c'est ça. Elle écoute pas. Et du coup, pour je lâche des bombes à ma femme, je lui dis, j'ai lâché une bombe sur notre couple, mais je te dis pas dans quel épisode.
Pour l'obliger. Comme ça, on a des vues en plus.
Et ça m'a rappelé, est-ce que... Ce que tu dis, ça m'a rappelé les femmes qui regardent le prêtre à la fin de la messe, en fait, tu sais, avec cette espèce de béatitude du gars qui est divin, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Et moi, ma théorie, c'est ça, c'est qu'à chaque fois qu'ils sont dans des situations ouais. invraisemblables où les gens sont en admiration, c'est pour moi, c'est de la propagande, c'est ce truc chrétien, en fait, tu vois. Et j'ai vraiment été saoulé par cette espèce de leitmotiv de destinée manifeste, en fait, américain, où en fait, on leur clairement, l'Ouest américain s'est construit comme ça. On leur a dit qu'il y a quelque chose, voilà, vous devez massacrer les Indiens, c'est votre destinée, vous devez aller sauver les Européens, c'est votre destinée. Donc c'était assez, assez insupportable.
Mais c'est pour ça, tu vois, excuse-moi, je profite que tu parles de ça pour un peu, rebondir. C'est-à-dire que ce que tu dis exactement, tu vois, sur cette idée de destinée manifeste, il y a quelque chose qui est sans doute en fait le but, c'est en montrant un petit peu comme ça la vacuité du mode de vie de ces gens-là. Ce que dit Clint Eastwood, tu sais, ça me rappelle un peu ce qu'avait dit George Bush, tu sais, quand il disait en fait, s'ils nous attaquent, c'est parce qu'ils détestent nos valeurs.
Ouais.
Et là, qu'il y a quelque chose de la mise en avant de ces valeurs et qui sont ces valeurs-là, en fait. Ces valeurs de mépris pour les autres peuples de la planète, ces valeurs de quelque chose qu'il aurait dû, ces valeurs de l'éducation américaine, de l'armée américaine. Et il y a quelque chose de ça. Mais ce qui est marrant, c'est que malgré tout, en le regardant, je peux pas m'empêcher d'y voir une critique.
C'est-à-dire que là, en disant cette phrase, je me suis dit. Ah mais je crois qu'en fait si c'est du second degré en fait. Parce que je revois le terroriste filmé de manière absolument manichéenne, on voit que c'est le méchant. Ouais. Tu vois quand il se regarde dans le miroir, il n'y a pas de doute, tu sais que c'est une personne qu'il faut tuer dès maintenant, dès qu'elle se regarde dans le miroir. Il est marrant, on est d'accord, voilà c'est ça. Mais bien sûr, donc de base, il ne faut pas avoir confiance.
D'ailleurs, le seul autre arabe qu'on voit dans le film, c'est en Afghanistan. Enfin, c'est pas un arabe, du coup, c'est un afghan. Mais en tout cas, tu vois, musulman qu'on voit dans le film, c'est. Et on dirait un homme des cavernes qui découvre un sac à dos pour la première fois de sa vie, quoi.
Et non, mais en fait, en disant ça et en parlant des valeurs, c'est vrai que le fait qu'il. Ouais. Le fait qu'ils s'en battent les couilles du reste du monde, peut-être que. Non, mais je crois que ça se trouve, c'est une critique. Et à ce moment-là, ça vaut 6 étoiles. Ça vaut 6 miam. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est que le gars l'a fait tellement. Genre, il a fait son. Ouais. Son Jean-Claude Van Damme, peut-être.
Non, mais non. Alors à ce moment-là, si tu dis ça, on a qu'à dire que Michael Bay est un génie parce qu'il a fait volontairement le film le plus chiant du monde.
Parce que lui, dans son commentaire,
c'est pas tout à fait la méchance parce que rien ne transparaît chez Michael Bay de la culture américaine ou de quelque chose. Tandis que ici, peu importe comment Clint Eastwood, si tu veux, se positionne par rapport à ça, il y a quelque chose qui transparaît. Malgré tout, tu vois.
Si c'était au tribunal, je serais pas du
genre. Je pense que ce que vous êtes en train de faire, c'est exactement. Alors, vous avez certainement beaucoup de sympathie pour Clint Eastwood, mais là, c'est ce qui se passe, c'est le papy qui devient un peu gâteux et qui a Alzheimer, et on a de la peine. On se dit, il me reconnaît pas, mais c'est moi, tu sais. Et là, voilà, t'as de la peine, tu vois. Tu le sens partir, en fait, et t'as pas envie de le laisser partir.
En vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Il y a un peu de ça. Non, mais c'est vrai, il y a un peu de ça, mais si tu veux, à notre décharge, quelqu'un qui a fait des films
comme
aussi
Gran Torino,
géniaux
exemple,
que Clint Eastwood, si tu veux, moi j'ai l'impression que je peux pas mettre de côté le film tout de suite sans essayer de voir ce qu'il pourrait y avoir derrière. Tu vois ce que je veux dire?
Mais je suis d'accord, c'est-à-dire qu'en gros, si on devait parier, oui, 90%, 95% de chance qu'il est gâteux. Tu vois ce que je veux dire? Et 5% de chance que, par miracle, le gars, genre, quand il va mourir dans ses mémoires, il aura marqué « Ah, le 15h17, je vous ai bien eu », tu vois. Ce serait énorme.
Et puis, tu sais, tu parlais du portrait qui est fait dans le terroriste où on ne lui laisse pas l'ombre d'une chance. Tu sais, c'est vraiment ce qu'on voit de lui, c'est un portrait maléfique. En fait, il n'a pas de parole et rien, on ne lui laisse pas l'ombre d'une chance.
Il n'hésite pas, même, tu sais.
Et ce qui avait été fait dans. Il avait fait la même chose dans American Sniper avec le portrait du sniper qui est dans le camp adverse, en fait, la même chose. Donc, clairement, c'est un. On peut pas ne pas voir cette espèce de guerre de religion qui est réactivée, où c'est clairement des croisés, c'est les croisés chrétiens qui sont en Europe pour... Non, mais ce que je veux dire, c'est vraiment ça, c'est une guerre de religion réactivée par ces vieux codes-là, et c'est... Et je trouve ça vraiment...
C'est pire que ça, parce que croisé, j'utilise le verbe, mais avec le destin manifeste, c'est qu'en plus, tu sais... que c'est leur camp qui est le bon, puisque Dieu les a amenés jusqu'au bon endroit pour stopper l'autre religion. Tu vois, c'est genre vraiment, il n'y a pas de doute, quoi. On sait quel est le bon camp dans les deux.
Il n'y a pas de doute, ouais. Mais c'est ça, donc...
Il y a aussi, tu vois, un truc qui m'a un petit peu... C'est-à-dire que nous, le film précédent de Clint Eastwood, on l'avait beaucoup aimé dans ce podcast, c'était Sully.
Oui.
Et dans ce lit, c'était une histoire qui durait à peu près 5 minutes, qui était répétée une quinzaine de fois à peu près durant tout le film, où on voyait toutes les variations. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce film, il y a presque un prolongement de ça, dans le sens où, en fait, on le voit, tu vois, dans le film. C'est la seule chose d'un peu excitante qui soit arrivée aux trois héros, c'est ce qui s'est passé dans ce train. Et depuis, ils ont passé leur temps à répéter cette histoire dans les shows américains, à qui voulaient l'entendre. Et c'est presque ici l'aboutissement où ils leur fait refaire encore une fois cette histoire qu'ils ont tellement raconté qu'elle est même plus vraie, en fait. Elle a tellement été redite, elle a tellement été réinterprétée, tu vois, qu'il n'y a plus rien. Et il y a quelque chose de très étrange à la fin du film. Quand d'habitude, dans ce genre de film, à la fin, il y a souvent des images d'archives où on voit les vrais protagonistes. Et là, on voit ces images d'archives. Et il y a un effet très bizarre parce que c'est donc les mêmes personnages qu'on a suivis pendant tout le film qu'on voit dans ces images d'archives. Et si tu veux, là pareil, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce que c'est une continuation de ce travail qu'il avait fait dans ce lit sur une réflexion, tu vois, sur la mémoire ou quelque chose? Ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus bête que ça et qui est l'idée, tu sais, qu'on entend souvent, ou on entend souvent des gens dire « Ah, on glorifie les acteurs alors que les véritables héros sont ailleurs. » Et est-ce que Clint Eastwood, en faisant des acteurs ses véritables héros, il voulait un peu accomplir cette prophétie-là? Je sais. Et si c'est ça, je trouve ça un peu bête, parce que l'idée, c'est pas de dire on ne devrait pas glorifier les acteurs, on devrait glorifier les gens qui font vraiment des choses. Ici, ce qu'il dit, c'est on devrait mettre dans la position d'acteur les gens qu'on considère comme des vrais héros dans la vie. Enfin, c'est très bizarre, tu vois. Il y a quelque chose de.
Ce que tu dis, je suis assez d'accord. C'était un thème que j'avais beaucoup aimé dans ce lit, et ça a le mérite d'ouvrir un débat qui est passionnant. Entre fiction et réalité, dans la mesure où la question qu'on peut se poser, et pour la petite anecdote, ça pose des problèmes d'instruction, hein, puisque ce procès est toujours en cours. Est-ce que ce film est une reconstitution, en fait? Tu vois, c'est ça le débat, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu essaies de prolonger une réalité avec les vrais gens, tu leur portes gloire, etc. Il y a une anecdote qui est vachement intéressante. J'ai lu que l'avocat il s'appelle Ayoub El-Kazani, je crois, le terroriste de l'attentat raté, qui est dans les DVD des bêtisiers de l'État islamique, hein, d'ailleurs. Et cet avocat se plaignait, en fait, il disait que c'était scandaleux parce que cet avocat avait demandé au juge une reconstitution des faits filmiques. Et là, c'est le droit qui parle, et le juge lui a dit que c'était pas possible par rapport au droit, parce que ça serait obscurcir notre quête de la vérité. Tu vois? Donc en fait, si c'est le cas, donc on répond ensuite à la question subsidiaire, qui est la question: est-ce que ce film est une reconstitution? Et si c'est le cas, ben du coup, ça va pouvoir peut-être avoir une influence sur les témoins, parce que tu vois, le procès n'a pas eu lieu, donc peut-être qu'il y a des témoins, il y a des gens qui étaient dans le train qui vont aller voir le film.
Ah non,
ça
mais même les figurants, il faut savoir que les figurants dans le film, c'était des gens qui étaient vraiment dans le train.
Ouais.
Donc si tu veux, c'est pile ce que du coup le juge ne voulait pas en refusant la reconstitution. Donc techniquement, presque, c'est du pain béni pour l'avocat du terroriste, parce qu'il va pouvoir dire « Ah mais oui, mais ils ont fait un film. » Du coup, maintenant, bien entendu, c'est biaisé par tout ça, et voilà, plus personne ne peut se souvenir de la réalité. Donc laissez mon client partir. Non mais c'est vrai. Et moi, c'est et en vrai, aussi, en vrai, dans, si je suis le juge, c'est difficile parce que j'ai refusé un truc. En fait, ils le font.
Et c'est illustré par ce qui se passait dans Sully, parce que ce qui se passe dans Sully, c'est qu'on lui, je sais pas si c'est un peu ce que t'as dit Arnaud, mais en gros, on lui répète tellement oui. l'histoire qu'il en vient à douter de sa propre expérience, de la vérité de son expérience. Mm-hmm. Donc là, on est clairement dans ça en fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont aller voir le film. Donc raconter autrement, ils vont dire ah mais ça s'est peut-être pas passé comme moi je l'ai vécu.
Parce
alors,
que n'oublions pas que le souvenir et la mémoire, vous vous rappelez jamais de ce qui s'est passé à un temps donné. Vous vous rappelez de ce qui s'est de la dernière fois que vous vous êtes rappelé cette chose. En fait, donc à chaque fois, s'il y a une petite modification, vous allez l'intégrer dans l'histoire en fait. Et du coup, voilà, on en revient là. Et c'est vrai que c'est con. Enfin, ce serait vraiment très bête de faire ça, mais le truc intéressant dans ce film, ça aurait été de faire exactement comme pour Sully, quoi. Un travail avec la glorification du héros, probablement, quand ils sont rentrés chez eux, etc. Et tout ça, mais voilà.
Mais parce que ça fait aussi référence à un deuxième film de Clint Eastwood, mais pareil, beaucoup plus intéressant, c'est La mémoire de nos pères. Il y a un poster, d'ailleurs, de La mémoire de nos pères dans la chambre d'un des héros au début du film. Et dans la mémoire de nos pères, en fait, on voyait des soldats. C'était un peu comme Billy Lynn, en fait, l'année dernière, où on voyait des soldats qui étaient soi-disant les soldats, tu sais, qui avaient hissé le drapeau sur les plages d'Iwo Jima et qui étaient à l'origine de ce fameux cliché de la Seconde Guerre mondiale. Et lorsqu'ils rentraient aux États-Unis, en fait, le gouvernement faisait tout pour en faire des héros pour la presse, pour qu'ils soient les porte-étendards de ça. Et il y avait une vraie critique de tout ça. Et c'est marrant parce que là, on prend une histoire et c'est exactement dans la vraie vie ce qui s'y passe, mais c'est pas ce que...
Ça aurait été dommage parce que ça aurait été pas mal d'avoir des soi-disant civils, justement, qui seraient les porte-drapeaux de, justement, les valeurs américaines. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas la version martiale, mais la version... Même un citoyen américain est quand même meilleur que tout le monde, tu vois.
Mais c'est ça, mais parce que grosso modo, en fait, il fait dans ce film ce qu'il critiquait dans La mémoire de nos pères, quoi. Et c'est très... Non, mais c'est très étrange parce que c'est à la fois un prolongement et un reniement de sa carrière, ce film, tu vois. C'est assez marrant de voir ça, quoi. C'est... Mais aussi, il y a quelque chose à la fin du film, on n'en a pas parlé, que j'ai trouvé très étrange. C'est quand on voit les véritables archives de François Hollande qui remet la Légion d'honneur à nos trois héros. Il y a un quatrième personnage à qui on remet la Légion d'honneur.
On l'a vu une seconde, je crois.
Et ce type, quoi. Quand tu vois le film...
Je crois que... À un moment, il était arrivé vite fait pour aider à mettre une corde, à attacher le terroriste, quoi. Mais genre, bon, lui, alors on va pas se mentir, lui, il l'a eu gratuite, la Légion d'honneur. Hein, c'est comme Pascal Obispo, quoi. Genre, non, mais franchement, c'est vrai. Genre, le gars, il arrive après la bataille, il fait genre, qu'est-ce que je peux vous faire un nœud, j'ai fait de la voile. Ouais. Hein, je fais un truc, je sais faire des nœuds.
C'est exactement comme dans un déménagement, quand t'as descendu le canapé, t'as ton pote qui dit, ah, je peux vous aider, il finit de te le mettre dans le camion. Là, tu sais, c'est vraiment le...
Ouais.
Ouais, donc je voulais rajouter un truc par rapport à l'ironie ambiante qu'il y a par rapport à... Je pense que c'est ce qui déclenche nos envies peut-être de penser que c'est du second degré, c'est le mauvais jeu d'acteur. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on se serait posé cette question si les acteurs étaient aussi mauvais, en fait. Tu vois, ça, c'est la première chose. Et du coup, ça déclenche alors, une ironie assez intéressante, parce que moi, il y a une scène qui me marque. C'est la scène où il y a le militaire qui va se chercher un smoothie dans le bar à smoothie au début, où en fait il joue tellement mal son gars qu'on dirait vraiment une pub de recrutement militaire. C'est-à-dire, tu sais, le gars genre hey, « bonjour monsieur, oui, alors si vous deviez choisir un corps d'armée, qu'est-ce que vous choisiriez ?» Tu vois, c'est toujours des prétextes à rappeler les corps de l'armée américaine. Non, les marines, c'est vachement bien, etc. Et en fait, je trouve ça assez ironique, en fait, parce que c'est là que la parodie sort, en fait, parce que ça aurait pu être un truc très très sincère, mais ça en devient ridicule, en fait. Ça en devient ridicule aussi quand les espèces de putain, je supporte pas ces espèces de soccer mums, en fait, qui sont dans le bureau du principal, franchement, avec cette espèce de voix genre Hi, I'm Karen, I'm Josh's mom, etc. Tu sais, genre, encore une fois, on est encore dans le prolongement de la propagande chrétienne, de la femme au foyer qui est là pour élever ses enfants, tu vois. C'est la housewife, tu vois. Et j'ai trouvé ça assez, assez marrant, en fait, à l'arrivée, parce que ça transporte de la médiocrité tellement en permanence que ça en devient ironique à l'arrivée. Donc c'était ça que je voulais dire. Et puis je parlais à Arnaud aussi de ce moment magique où elle dit que Dieu lui a parlé avant que son fils parte à la guerre. God spoke to me last night. Tu vois, genre c'était.
And something exciting
voilà,
will happen
donc,
to you. Mais sérieusement, la meuf, elle est prophète. Tu sais. Non, mais faut arrêter. Non, mais surtout qu'il n'y a personne à sauver entre les profs et les mamans. Hein, parce que les mamans, bon, elles préfèrent Dieu aux statistiques. Et les profs, et le principal au début, tu as envie d'être avec eux, mais bon, ils veulent refourguer de la ritaline à tout le monde. Et après, comme argument de décision vers qui envoyer le gosse pour vivre chez sa mère ou son père, et le mec dit oui, non, mais on a demandé à Dieu. Ok. Il va bien ? T'as répondu quoi ? Qu'est-ce qui se passe avec les ornithorynques en ce moment ? Non, mais tu vois, il n'y a personne. Voilà.
On a demandé à Dieu, enfin ils ont peut-être lu la Bible du coup. On a lu la Bible et on s'est rendu compte que Dieu disait que les femmes en fait étaient incompétentes.
Votre fils
et la quintessence de ça, c'est tu parles de la Bible, mais à la fin il y a quand même une scène où il y a un truc qui ressemble presque à un plan fixe avec une voix off de passage certainement lu de la Bible en fait. Je sais pas si vous vous rappelez de cette scène à la fin, c'est le tout dernier passage. Et cette scène elle est scandaleuse franchement. Ouais. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais là ça met le dernier clou, tu vois,
Juste, moi, j'ai envie de dire les deux trucs. Alors, moi, j'ai pas envie d'être si méchant par rapport au jeu d'acteurs de ces gars-là. Alors, probablement par contraste avec les gosses, parce que je trouve que les gosses étaient pires que eux. Et je t'avoue que ça m'a, du coup, j'étais moins choqué, vraiment, par leur jeu d'acteur. Et aussi, bon, en fait, ma scène favorite, c'est François Hollande. Je trouve que c'était un beau discours. Non, mais sérieusement, je trouve que c'était pas mal. Je trouve,
Et voilà. C'est un bon c'est acteur
vrai,
aussi.
Ouais, non, mais c'est vrai, je rigole pas du tout. Et je fier d'être français quand tu entends un discours.
Non, mais en fait, je vais te dire, le jeu d'acteur des comédiens, ce n'est pas un problème si toute la partie de tourisme en Europe est une tentative de déconstruction de non mais si c'est une tentative de déconstruction à la Harmony Corrine, tu vois, de la société américaine. Donc si c'est le cas, je trouve ça pas mal.
Moi je trouvais que l'acteur le mec ouais non en fait non ils sont nuls. Ouais non c'est pas grave. Tout est nul.
Moi j'aimerais
Et je suis obligé de mettre 0,05.
Je dis tout ce que j'avais à dire. Je finirai juste en redisant cette excellente blague que j'avais entendue d'un stand-upper américain dont j'ai oublié le nom. Je le recommuniquerai, mais c'était une blague qui avait été sortie pour American Sniper. C'est en gros, il disait Clint Eastwood, les Américains, ils vont pas juste se contenter de venir faire la guerre dans ton pays, te raser ton pays et voler tes richesses. Ils vont aussi faire un film dans lequel ils vont montrer que cette guerre, ça a fait pleurer leurs soldats. Tu vois, c'est le package complet, quoi.
Écoute, moi, je vais botter en touche par l'acheter, parce que j'ai pas envie que si dans 10 ans, on réévalue ce film comme Showgirls, tu vois, comme un chef-d'œuvre du second degré. En fait, j'ai pas envie d'avoir été un de ces gars qui a crié avec les loups. Et donc, par l'acheter... Je vais pas noter le film.
Mais attends, moi c'est enregistré, donc c'est on record. C'est 0,5 miam, mais peut-être 6 miam si on voit dans les mémoires de Clint Eastwood qu'il s'est foutu de notre.
Moi je mets 0 burger, mais un petit velouté pour papy pour qu'il aille au dodo. Voilà.
Des Cheetos et au lit. Allez,
rien n'a sauvé de ce film.
Allez. Ça, c'est fait pour Jean-Claude Eastwood. Est-ce qu'on peut passer à Jusqu'à la garde ? Ou est-ce que vous voulez parler des films en vrac ?
Jusqu'à la garde !
Bye bye !
On fait les films en vrac maintenant ?
Yes ! Allons-y. Okay. Qu'est-ce que vous avez vu dernièrement ?
Écoute, moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour une série télé un peu particulière.
Ah bon ?
Qui s'appelle Twin Peaks saison 3. Non, je rigole. On va parler d'autre
chose. Oh là là !
Non, j'ai vu une série qui s'appelle Nathan For You, je sais pas si vous connaissez.
Ah oui, c'est génial ça. Enfin une série, c'est une émission quoi.
C'est une émission, ouais. En fait ça ressemble un peu à Borat, si on devait le rapprocher de, tu vois, de quelque chose. Et en fait il joue une espèce de faux expert marketing qui va donner des conseils à des entreprises américaines qui luttent. Et les conseils qu'il donne, c'est des choses à chaque fois pas possibles. Moi, il y a un épisode que j'adore, par exemple, à un moment donné, où c'est une entreprise de déménagement qui dit qu'ils dépensent trop d'argent dans leur salaire. Et du coup, Nathan leur donne une solution. Il leur dit, vous dépenserez moins d'argent si en fait, vous avez des gens qui travaillent gratuitement pour vous. Et il dit...
Et... Si vous avez des esclaves.
Et du coup, il dit... Et c'est tout à fait possible à faire si on fait croire aux gens qui ne travaillent pas mais qui font du sport. Et du coup, ce qu'il fait, c'est parce qu'il va très très loin en fait dans ses
ouais, trucs. Il met en place les trucs.
Il prend un bodybuilder, il fait écrire par un ghostwriter une fausse autobiographie de ce personnage en disant que en fait il a perdu du poids et il a acquis de la masse musculaire juste en bougeant des meubles et des cartons, tu vois. Et il le fait aller dans tous les morning shows américains pour parler de cette nouvelle méthode révolutionnaire. Et le pire, c'est que ça marche. Il arrive à faire venir des gens pour déménager des maisons gratuitement en leur faisant croire que c'est du sport. Et il fait un peu le coach, tu sais, pendant qu'ils sont en train de faire ça. Il a son sifflet, il fait « Voilà, il faut bien soulever les boîtes comme ça. Il faut soulever les meubles de haut en bas, tu vois, pour que ça marche. » Et il fait que des choses comme ça. Et j'ai vu une interview de Nathan Fielder qui parlait de ça, et il disait que l'idée du show, ça lui est venu lors de la crise des subprimes, où il s'est rendu compte en fait que cette crise, elle était due à beaucoup de gens à qui on a fait faire des choses, qui se rendaient compte que c'était des choses qui n'étaient pas morales ou qui n'étaient pas bien, mais qui ont fini par le faire par politesse ou par espèce de convention sociale, et que c'est ceux qui voulaient travailler dans ce show, et c'est exactement ce que tu vois. C'est-à-dire, il fait faire à des gens des choses ahurissantes juste parce qu'il a une caméra ou parce qu'il se met en position de pouvoir par rapport à eux. Et je trouve ça en fait super intéressant. Je trouve que c'est une émission qui parle vachement bien en fait du capitalisme contemporain.
Ça s'appelle comment?
Moi,
je vais le noter.
Nathan for you,
ouais.
Tu l'as vu l'épisode avec le vendeur de crème glacée ou pas?
Ouais. Au parfum merde.
Ouais. Ça a trop bien marché aussi. Ouais, tu sais que ça a trop trop bien marché.
Non, mais il y a plein de trucs à un moment donné aussi. Il y a un petit café en fait qui lutte à cause de la concurrence de Starbucks. Et il leur dit, mais en fait, si vous utilisez l'image de marque de Starbucks, les gens croiront que vous êtes un Starbucks et du coup, vous pourrez gagner de l'argent. Et le gars, il dit, mais comment on peut faire ça? Et là, il utilise les lois de la parodie. C'est-à-dire, si tu fais une parodie de quelque chose, tu peux réutiliser des images de marque, etc. Et alors, ce qu'il fait, c'est qu'il devient un artiste parodique et il expose dans des galeries des œuvres parodiques qu'il fait pour s'installer comme artiste parodique. Et à partir de là, il fait un faux Starbucks qui s'appelle Dumb Starbucks, le Starbucks idiot. Et il a le droit parce que c'est une parodie. Et du coup, en fait, quand les gens rentrent, ils leur disent, ils viennent pour prendre un café, il les avertit et il leur dit des trucs du genre, je dois vous avertir que ceci n'est pas un café, c'est une installation artistique. Et donc, c'est comme tel qu'il faut l'envisager, mais on vous vend quand même des cafés, mais ce sont des œuvres d'art. Mais voilà,
c'est cool, ça donne envie. C'est un petit peu, ce que tu dis, ça me fait un petit peu penser à la genèse de The Office, comment que Ricky Gervais sort The Office parce qu'il a une expertise managériale et ça crée tout un truc génial par rapport à ça. Moi, je me permets de faire la transition parce que tu parles de série. Moi, je suis dans une mini-série HBO que je trouve vraiment bien, que j'ai, qui s'appelle, c'est pas nouveau, ça s'appelle The Jinx, The Life and Death of Robert Durst, qui est une mini-série en 6 épisodes qui retrace un fait divers aux États-Unis qui a fait couler beaucoup d'encre de l'histoire de meurtre pas élucidé. C'est assez intéressant parce que tu suis... Donc le prémisse en fait, c'est que c'est une histoire où il y a un cadavre, un corps démembré qui est retrouvé au bord d'une plage. Et donc ça commence comme ça, donc ultra ultra ghetto. Et donc il y a une mini enquête qui est faite, et puis on se retrouve, on arrive au domicile d'un gars. Donc ce gars, c'est Robert Durst, donc un espèce de petit papy qui paye pas de mine, grisonnant, qui marche tout lentement, qui est vraiment le gars le papy le ordinaire, tu vois. Et du coup, c'est trop marrant parce que ça commence, le flic lui dit je vais être obligé de vous arrêter parce que, enfin, tu vois, il y a un espèce de malaise parce qu'on dit ce papier là, ça peut être lui, ce que lui, parce que le corps a ramené à ce domicile. Donc du coup, il y a une caution qui est fixée à 250 000 $. Et alors du coup, le flic, il est mal à l'aise, il dit vous avez donc ils sont vachement à l'aise et donc du coup le papy donc Robert Doss il dit ben qu'est-ce que je dois faire, tu sais il y a vraiment un truc de on comprend pas ce qui se passe quoi, et donc du coup le flic dit ben, je sais pas, vous avez 250 000 dollars, et là il y a le gars, il le regarde comme ça, il lui dit ben, je les ai pas sur moi quoi, et en fait de là se crée un espèce de malaise où tu vas suivre cette espèce d'enquête policière avec ce papy qui a des petites billes noires et qui a l'air un peu maléfique, mais tu sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Et donc la série suit l'espèce de cette enquête et de concert avec une vraie interview de ce Robert Doss qui a été innocenté tous ses meurtres. Et c'est assez fascinant en fait. Alors moi j'ai un petit plaisir coupable pour ce genre de documentaire sur des histoires policières, etc. Donc c'est très sympa. Je trouve ça vraiment très, très envoûtant. Donc voilà, je le conseille.
D'accord, ok. Alors, c'est une série, tu disais, du coup, c'est combien d'épisodes, ça?
C'est 6 épisodes, c'est une série HBO.
Ok, d'accord. Moi, je regarderai. Moi, je suis en train de suivre une série qui s'appelle La Casa de Papel, qui est une série Netflix, d'un braquage qui a été préparé très longuement, soi-disant. Il y a un truc que c'est intéressant, on a envie de savoir où ça va. Mais il y a un gros problème, c'est que pour quelque chose qui a été préparé très longtemps, je trouve que très rapidement, les gens ne font pas du tout ce qu'ils sont préparés à faire, en fait. Moi, j'aime beaucoup les films de braquage, hein, les heist movies, mais quelque part, il y a mon cerveau très pragmatique qui se dit, si tu as bien préparé ton braquage, tu n'as même pas besoin de me montrer le braquage. C'est-à-dire que tu me montres la phase où les mecs déplacent les plans et font « Toi, tu vas passer par là, toi, tu vas… » Eh ben, ok, mais parfait. Et ensuite, cut to Bahamas.
C'est pour ça que la convention dans le genre, c'est de toujours montrer un élément qui n'a pas été prévu dans le plan et qui fait…
Absolument, sauf que là, ce n'est pas des éléments extérieurs, malheureusement. Donc, c'est pas très… Voilà. Bon, après, c'est quand même intéressant. On a envie de savoir où ça va. Hein, et l'acteur qui joue le professeur… série espagnole, hein, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, qui se déroule à Madrid. Et ouais, mention spéciale pour cet acteur qui joue très bien et je trouve qu'il capte vraiment bien la caméra dès qu'il passe. Et également, je regarde une série documentaire sur Dr. Dre et Jimmy Iovine qui s'appelle The Defiant Ones. Et au début, j'y allais parce qu'il y avait de bonnes critiques. Les quelques premières minutes, j'ai eu très peur que ce soit un documentaire vraiment juste à leur gloire, quoi, pour se branler et dire oui, HBO a fait un documentaire pour moi et pour ce que je fais. Et en fait, c'est quand même très très intéressant tout ce qui se passe dedans. On revient sur des trucs de NWA, pour ceux qui ont déjà vu le film Straight Out of Compton. Et aussi, on voit le côté de Jimmy Iovine, qui est donc un petit mec qui sort de Hell's Kitchen, je crois, à Manhattan, et comment il a plus ou moins gravi les échelons du monde de la musique. En étant d'abord ingénieur son puis producteur et là j'ai pas encore fini du coup la série documentaire, mais c'est en gros comment ils se sont rencontrés, ils ont fait des trucs énormes. Voilà,
ce sont des séries Netflix.
Casa de Papel, oui. The Defiant Ones, c'est HBO.
Ouais. D'accord. J'ai pensé à toi parce que l'autre jour, j'écoutais le... C'est énorme, c'est le podcast, tu sais, You Make Me Weird. Je sais plus comment ça s'appelle.
You Made It Weird, Pete Holmes.
Made It Weird. Voilà, Pete Holmes. Et Pete Holmes disait un truc vraiment trop bien sur Netflix et parce qu'il racontait la dynamique du Big Nata Netflix. Et en ce moment, il y a une grosse rumeur. Et si c'est vrai, franchement, ça serait vraiment la sournoiserie du big data, son paroxysme. Et en ce moment, la grosse rumeur par rapport aux gens, lui et d'autres gens qui bossent par rapport à des contenus Netflix, ils disent que Netflix, par rapport au big data, contrôle aussi les moments pendant lesquels tu fais pause pendant les séries. Et ça veut dire qu'en fait, il y a une espèce de truc où ils remontent en amont et après, ils vont voir les créateurs en disant « Mais pourquoi ils font pause sur cette scène ? Pourquoi ta scène est chiante, tu vois ?» Et je trouvais ça génial, en fait. C'est-à-dire que ça va... Tu crois que...
Alors qu'ils vont juste chercher un magnum dans le congélateur à ce moment-là. Ouais. Tu sais, ça n'a aucun rapport avec la série.
Ça. Mais en fait, je trouvais ça vraiment bien. Tu sais, si c'est vrai... Jusqu'où ça va, tu sais, le big data, c'est ouf quand même, quoi.
Bon, après, je pense pas, parce que ce qu'on entend, en tout cas, des créateurs, c'est quand même beaucoup, beaucoup de liberté avec Netflix. Ouais. Donc,
et en même temps, beaucoup, beaucoup de liberté. Et en même temps, on remarque que des choses originales sur Netflix qui sortent de l'ordinaire, on en voit très, très peu, en fait.
C'est fou, hein.
Est-ce que ce discours est vrai ou je commence à avoir des doutes, c'est-à-dire des choses originales.
Je te rejoins, il y a une espèce de paradoxe. C'est vrai qu'il y a un paradoxe assez saisissant, je pense, ce que tu dis entre cette prétendue liberté et puis le côté insipide de l'ensemble du contenu, c'est-à-dire que il y a une espèce de bulle fade, tu vois. Et je comprends pas, en fait. Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression que toutes les séries se ressemblent, que tout
N'oublions pas que ça fait juste 2 ans qu'ils commencent à faire des trucs, des créations originales, enfin, genre vraiment.
Le pire, c'est au niveau des films, quoi. Ou au niveau des films, souvent, c'est pas terrible, là, ce que sort Netflix, quoi. Là, j'ai pas encore vu, mais on parle de, tu sais, du dernier Cloverfield qui est sur Netflix. Ça, ouais. Ce qui paraît, c'est une catastrophe aussi.
Ah ouais. Je l'ai pas encore vu. Je compte le voir tout à l'heure. Là.
Est-ce qu'il y a eu un bon film Netflix jusqu'ici?
Bah, moi, c'est le film dont je vous ai parlé la dernière fois, là, Futile and Stupid Gesture, quoi. Mais après, il y a eu des choses qui sont rentrées dans les top 10, hein. The Mayor of It Stories ou du Okja, il y a des gens qui adorent.
Justement, j'ai l'impression que le genre de truc, parce qu'ils ont un film de Martin Scorsese cette année aussi,
oui,
qui vont
aussi,
sortir sur Netflix, j'ai l'impression que leur truc, c'est grosso modo, ils vont s'acheter une conscience en produisant 2 films par an, tu vois, sympathiques, et puis après, ils pourront balancer leur bouse, quoi.
C'est un peu
l'impression que ça donne, en tout cas.
Je suis pas si cynique que ça, je vois juste des gens qui commencent à produire des films, donc moi je vais pas juger sur ce qu'ils font maintenant, c'est à dire que moi je vois qu'en tout cas c'est quelqu'un en plus qui va produire des films, donc tant mieux, et on verra. Après, de toute façon, c'est comme tout, hein, c'est 90% des films, bon, c'est des trucs fades, quoi, je veux dire, dans la vie.
Et je me questionne d'autant plus que quand tu vois la concurrence et que tu vois les films que sortent Amazon qui sont d'une toute autre qualité. Il y a eu quand même Manchester by the Sea. Vraiment, Amazon, de l'autre côté, envoie des petites bombes. Et voilà, je ne comprends pas, quoi.
Ouais, mais regarde qu'ils produisent. Déjà, ils n'en produisent pas beaucoup. Mais du coup, ils produisent que des gens qui sont ultra connus. Donc, si tu veux, moi, je vois ça en termes de donner la chance à des gens, d'autres gens. Essayer d'avoir des pools, tu vois, des centres de formation, en fait, tu vois.
Ah, on n'était pas au courant, mais apparemment, on a un placement de produits Netflix dans ce podcast.
Non, mais moi, je trouve que vraiment, il y a le côté centre de formation où, à la limite, ils ont de la thune, donc tant mieux qu'ils la balancent dans la production de films. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'Amazon, bah oui, ils font... Eux, par contre, c'est vraiment que 3 films par an. Alors oui, il y a un Woody Allen, il y a un Manchester by the Sea, tu vois, c'est... Enfin, ils viennent avec des trucs qui sont quand même backup, quand même. Je pense pas qu'il y aurait eu trop de mal non plus à les produire chez quelqu'un d'autre.
Et juste pour fermer la page Netflix, je voulais vous demander si vous aviez vu cette série dont tout le monde parle qui s'appelle Altered Carbon, une série de science-fiction. Vous l'avez vu ça ou pas? Vous savez ce que ça vaut?
Je n'ai pas encore commencé, je commence juste après la Casa des Papels. Voilà.
Ok, voilà. Bon, c'était pour savoir.
Okay. On fera peut-être un fin de série avec Camille et Ludovic, vu qu'on suit la Casa des Papels ensemble. Donc on vous dira ce qu'on a pensé en détail de toute la série et Altered Carbon.
Ouais, et Twin Peaks saison 3 en 2022, quand Araski l'aura vu, apparemment.
Et vu que tu viens de le redire,
et encore,
ça va être 2023.
Encore, ça a repoussé, voilà. Et voilà.
Allez, on va passer à Jusqu'à la garde. Film qui a failli pas, au final, paraître dans cet épisode. Mais qui est sorti aussi le 7 février 2018, film de Xavier Legrand avec Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Hauneveu. Un thriller.
Thomas Gioria.
Pardon ?
Et Thomas Gioria qui joue l'enfant et c'est
ouais.
Pas.
Ah ouais, Thomas Gioria, il est bon, quoi. Excellent. Le couple Besson divorce pour protéger son fils d'un père qu'elle accuse de violence. Myriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu'elle considère bafoué. Prise en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n'arrive. Petit clip.
Voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6e A1 au collège Théodore Monod de Saint-Dumont et il a dit « Mes parents sont séparés depuis un an, je vis maintenant ici avec maman et ma sœur. On va fêter les 18 ans de ma sœur à la salle des fêtes de Vial. On habite tous là-bas chez papy et Nani, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin car on a peur que l'autre vienne. Papy se met à crier quand il le voit et c'est pas bon pour sa santé. Quand il vient, je m'inquiète pour maman parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça, c'est pas un père et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. »
Le synopsis me paraît un peu...
Il est un peu hasardeux.
Un peu hasardeux, ouais. Et un peu branlant, là, sur vraiment l'histoire du film. Qu'est-ce que vous avez pensé de Jusqu'à la garde?
Alors, déjà, je vais dire comment j'étais rentré dans, comment je suis rentré dans ce film. C'est-à-dire, c'est un film dont on a, beaucoup parlé dans la presse, etc. Ah ouais. J'étais allé un peu en reculant puisque c'était un drame social et je m'attendais un peu à voir les poncifs du genre. Après, je me suis rendu compte que plus qu'un drame social, il s'agit plutôt d'un polar, en tout cas dans sa forme, qui m'a assez accroché. Et je dois avouer que dès la première scène, je la trouve extraordinaire. Je trouve que c'est un tour de force de mise en scène, cette première scène. Il s'agit d'une audience chez le juge. Donc, c'est 5 personnages assis autour d'une table. Et il faut savoir que c'est une des pires configurations pour filmer, et pour filmer bien. 5 personnages autour d'une table, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et je trouve ça juste parfait. La manière dont il le découpe, où d'abord, en fait, on ne voit que les avocates et la juge, en fait, qui parlent. Il évite même de filmer en fait le mari et la femme dans cette situation là et petit à petit en fait on va être amené à les voir, et au moment où ils arrivent en fait du coup il y a une émotion qui arrive qui est assez forte, et je l'ai trouvé vraiment génial. Et la première chose que je me suis dit, c'est bon, ok, il y a un tour de force de mise en scène dans cette première séquence, mais le film va pas réussir à suivre les prémices qu'il a mises dans cette première scène. Et je dois avouer que si le film arrive très très bien à suivre ce qu'il y a dans cette première scène, je trouve vraiment que c'est que la mise en scène de ce film est assez incroyable, qu'il arrive à utiliser les ficelles du polar pour créer un suspense assez fou qui va culminer dans une dernière séquence que je trouve d'anthologie. Et personnellement, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je trouve le film impeccablement joué, je trouve très très bien monté, je trouve que le rythme du film est très bon, c'est-à-dire il sait quand mettre un silence, il sait quand construire une tension, il sait quand accélérer le récit. En termes de cinéma, je trouve ça très très bien. On va peut-être après un peu plus parler du fond, mais en tout cas, en termes de mise en scène, d'écriture et de jeu d'acteur, je trouve ça assez parfait, quoi.
Jean-Yves.
Alors, comme toi, Arnaud, j'ai été agréablement surpris. J'y allais dans de bonnes conditions, mais effectivement, comme il y avait eu une sacrée hype dans la presse, et puis en plus de ça, le sujet des violences conjugales est un sujet dont on parle beaucoup ces derniers temps. Donc du coup, je pensais que voilà, ça surfait un petit peu sur une espèce de vague du moment, et en fait, pas du tout. Comme tu l'as dit, c'est un film qui est brillant, c'est un film qui est ultra, qui est très malin, qui est subtil. Qui du coup, comme je pense tu as dit aussi, est très ambitieux et tient toutes ses ambitions. Il est réussi dans son ambition, il est intense, il est dur, il est violent. C'est ultra réaliste et c'est en même temps ultra bien documenté. On sent qu'il y a eu un vrai travail de recherche qui est pas non plus trop vanté, quoi. Tu sais, c'est vraiment juste ce qu'il faut. Il y a notamment une scène avec... En duplex avec police secours que je trouve magique. Ah oui. C'est un drame familial sur des fonds de thriller. Il y a une hybridation des genres qui est assez géniale. J'ai comme toi adoré la scène d'ouverture de cette audience de conciliation qu'il y a dans le bureau du juge, et elle est d'autant plus magique que elle ne sert pas juste à planter le décor. Elle sert aussi, comme tu l'as dit, moi j'ai vu un autre tour de force en fait, c'est sur la perception qu'on a de ces personnages, parce qu'en fait là où c'est génial, c'est que c'est quand cette scène commence, on nous présente ce couple donc avec un archétype assez connu, à savoir une femme qui subit les violences de son mari. Donc le mari est violent. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que le mari va avoir le droit de voir ses enfants ? Et là où c'est génial, c'est que le seul portrait que tu peux te faire de ces personnages, tu ne l'as qu'à travers les plaidoiries des avocats. C'est la seule strate que tu as pour te poser. Et c'est quand même assez délicat, parce que tu te dis, bon, ce sont des plaidoiries, alors ce sont des avocats qui défendent leurs clients, donc comment je peux me placer par rapport à ça ? Donc c'est très délicat. Donc...
Et on sent que la juge en face, l'actrice qui l'a joué est assez géniale, on sent que la juge hésite autant que nous, en fait.
Oui. Il y a vraiment elle hésite autant que nous. C'est réussi dans la mesure où il arrive parfaitement à nous mettre à la place du juge. Je pense, de façon assez objective, me dire que j'aurais peut-être pris moi aussi la même décision que le juge, parce que par rapport à ce qui est dit, tu dis, bon, ben, laissons-lui une chance, quoi, quelque part. On va pas le jeter au feu tout de suite. Enfin, laissons-lui sa chance. Et grâce à ça, il réussit justement à amener habilement ce tour de le tournant thriller, en fait, parce que s'il n'y a pas ça au début, tu peux pas Tu peux pas garder ce suspense. Donc ça, c'est vraiment la première chose que j'ai adorée. L'autre chose que je... Il y a deux autres choses que j'aimerais saluer. C'est la prestation de Thomas Gioria, qui est le garçon qui doit avoir 11-12 ans, qui joue l'enfant. Et en voyant une interview de Xavier Legrand, il dit qu'il y a eu un travail, mais monstrueux. Il y a eu un travail de titan pour trouver cet enfant. Et lui-même se disait en fait je ne trouverai pas un enfant qui peut jouer ce rôle, c'est pas possible en fait. C'est-à-dire que c'est tellement stratosphérique en termes d'émotion que
et de on subtilité dans joue, les émotions à chaque fois. D'ailleurs. Voilà. Et un travail, il y a même un travail sur la respiration de l'enfant. C'est à ce point-là que ça sonne vrai en fait sur ces choses-là.
Et il dit que ce qui a joué sur le choix de cet enfant, c'est qu'il avait des capacités une sensibilité sensorielle extraordinaire, qu'il réagissait très bien au bruit et que ça s'en ressentait vachement sur son visage. Donc ça, ça se voit très bien. Et l'autre chose que je trouve très bien, c'est la galerie de portraits secondaires et même ultra secondaires. Les grands-parents, en fait, les parents, moi, quand je suis dans les scènes de repas avec les grands-parents, j'ai vraiment l'impression d'être chez mes beaux-parents ou chez des tantes. Enfin, j'ai vraiment l'impression de quelque chose de vrai, en fait, tu vois. C'est très juste. Le portrait de la sœur du personnage de Léa Drucker est très bien aussi. Et en fait, ça sert aussi à cette ambition du film qui est en fait d'essayer de montrer la violence psychologique, les violences conjugales comme quelque chose que tu vois à l'extérieur et qui va en fait contaminer la famille. Parce que quand tu as un problème qui se passe comme ça, c'est tout le monde qui est touché et je trouve que c'est très bien fait. On voit très bien les conséquences dramatiques de ça sur tout le monde.
Mais ce qui est très malin aussi sur l'effet que tu vois ça donne sur le spectateur, ça, c'est que donc on va voir des scènes mais vraiment de pur polar, quoi, des scènes de suspense incroyables et dont l'effet est multiplié par 10 justement par cet effet de réel qui est apporté par le... Parce que souvent dans les polars, surtout dans un polar de ce genre, moi ça m'a fait penser à un film comme La Nuit du Chasseur, tu vois, avec Robert Mitchum comme ça, comme l'incarnation du mal qui rôde autour, il y a quelque chose de ça, mais... Qu'est-ce qui se passe en fait si je prends ces archétypes comme ça, cette figure du monstre, mais que je l'ancre dans quelque chose de tellement réel que on est complètement déstabilisé par ce truc de vraiment se dire j'ai vraiment l'impression que cette chose arrive, quoi.
Et puis en plus on ne rentre jamais vraiment là où c'est très malin, c'est il y a des clins d'œil qui sont faits par rapport à ça à la fin du film sur la position de toi que tu dois avoir en tant que spectateur, c'est que on ne cède jamais à cette tentation de rentrer vraiment dans la psychologie des personnages, on reste vraiment très en retrait tout le temps, on reste vraiment c'est le troisième œil, c'est vraiment cette troisième personne qui est vraiment assise et qui regarde. Il y a un temps assez ouf qui se passe dans la voiture du père, dans ce Kangoo, qui sont des scènes mais qui est d'une oppression mais sans nom, quoi. Ça me permet de dire aussi que c'est un...
Il y a jamais de scène en fait plus ou moins contemplative sur la psychologie de tel personnage.
Voilà.
En fait. Et chaque scène entre deux personnages, on a affaire à une action précise, c'est-à-dire qu'on doit faire ça pour aller là-bas, pour faire ceci, et donc tu vois juste le côté comportemental et tu dois te faire une idée dessus, et à tel point où même la mère en fait tu sais pas ce qu'elle vit, ce qu'elle pense, etc. Juste
À ce propos des scènes assez terribles, ça me fait penser à une de ces scènes de voiture où à un moment donné le gamin a peur de son père et se barre. Alors pareil, c'est réminiscent de scènes qu'on a pu voir au cinéma, tu vois, le gamin qui échappe au monstre. Mais ce qui est terrible là, c'est que le monstre, c'est son père. Il est perdu au milieu de nulle part et il est obligé de retourner vers son père parce qu'il a la voiture et il va le ramener chez lui, quoi. Mmh. Et ça donne des situations ahurissantes, je trouve, quoi.
Mais malgré tout, même si ce père est quand même, ça reste le côté la figure monstrueuse. La prouesse du film, c'est que pendant très longtemps, et c'est volontairement fait sur le personnage de Léa Drucker qui est très très introverti par la violence qu'elle subit, donc qui dégage très peu. Ben, en fait, la plupart du temps dans le film, t'as quand même, moi, en tant que spectateur, j'ai envie de lui donner une chance à ce père. Oui, tu vois, j'ai envie de dire, mais quelque part, t'as envie de lui donner une chance.
Pendant toute la première partie du film, effectivement, c'est parce que c'est là où c'est bien fait. D'ailleurs, moi, quand j'étais allé voir le film, je savais pas du tout que c'était un thriller. Moi, vraiment, je me suis dit, c'est drame social à mort. Et il y a ces petites scènes de tension qui commencent à arriver et qui vont vers le thriller. Et Et en fait, c'est a posteriori, je me rends compte, c'est pas des scènes de tension, mais c'est aussi des petites astuces aussi de mise en scène. Le coup du bip de la ceinture de sécurité qui revient à chaque fois, c'est d'une intelligence rare, parce qu'en fait, on veut te dire que le moment stressant va arriver à un certain moment. Et le fait d'arriver petit à petit vers le Denis Ménochet qui a l'air d'un ours. Alors voilà, il y a la dualité du truc. Alors ça peut être un bon nounours, tu vois, où tu dis, ah, mais en fait il est incompris, je sais pas ce qui se passe. Et il y a une scène qui, je trouve, fait totalement basculer le tout. Où vraiment t'as envie de dire, non mais là je peux même plus lui donner quoi que ce soit comme rédemption. C'est le moment où il la prend dans ses bras. Vous voyez ou pas cette scène quand il rentre dans l'appartement.
Je vois parfaitement.
Je pouvais lui trouver des excuses.
C'est très beau parce que même
à tout moment. Et quand il arrive, voilà cette scène. Dis-moi.
Ouais, en fait, ce que je voulais dire dans cette scène, qui est quelque chose qui revient après dans le film, après cette scène-là, c'est la manière en fait dont il fait. Parce qu'en fait, ce qui est beau dans ce film, c'est que tout a déjà été joué avant. C'est-à-dire la séparation de tout ça, ça s'est déjà passé. Tout a été dit entre les personnages. C'est pour ça que Léa Drucker dit pas grand-chose aussi. C'est tout a déjà été dit. Elle a pas à ressasser. Et dans cette scène, ce qu'il y a de très beau, c'est comment il fait exister le passé. C'est-à-dire, il pleure en lui disant « j'ai changé » et il la prend dans ses bras. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. C'est il utilise le corps de Léa Drucker pour exprimer quelque chose. La manière dont elle se tend pendant qu'il l'embrasse. On sent que cette scène, elle a déjà eu lieu. Et elle s'est mal terminée, en fait. Et je trouve ça super beau, tu vois, de nous faire comprendre ça par...
En fait, comme en étant une personne extérieure, et c'est ça aussi peut-être ce qui est très bien joué dans ce film, c'est que voilà, on est une personne extérieure, on n'a rien vu de tout ça. On est la voisine, en fait. Ouais. Et du coup, tu veux donner une espèce de chance à tout le monde, y compris à Denis Ménochet, jusqu'au bout. Et le problème, c'est que c'est peut-être trop tard à un certain moment, tu vois. C'est-à-dire que jusqu'avant le fait qu'il l'enlace, tu t'es envie de te dire, si tu sors maintenant, on a l'impression qu'il va remettre, tout va bien se passer, il va rester calme, etc. Et le moment où il l'a dans ses bras, tu es oppressé, t'es là, t'es avec Léa Drucker et tu fais genre, s'il vous plaît, je peux rien faire, parce que clairement le mec il fait deux fois sa taille, tu vois, et je trouve que ça très intelligent, et à partir de là, on a peur, on a vraiment peur.
Et c'est progressif, c'est-à-dire il y a vraiment des indices. Le premier moment où je commence à comprendre en fait le schéma de fonctionnement du personnage de Denis Ménochet, c'est très précis en termes de scénario, la manière dont il l'amène. C'est il y a une situation où on voit que Denis Ménochet en fait veut parler à son ex-femme. Il veut absolument parler à son ex-femme. Et lorsque il prend son fils pour un week-end, il se passe quelque chose. C'est il comprend en fait que son ex-femme voudrait échanger de week-end de garde le gamin pour que le gamin puisse aller à l'anniversaire de sa sœur qui va avoir 18 ans. Et on est dans la voiture et à ce moment-là, il prend à part le gamin et il lui dit « Mais en fait, tu sais que si vous me le demandez, je peux échanger les week-ends de garde et tu pourras aller à l'anniversaire de ta sœur. Et il suffit que tu me le demandes. » Et là, le gamin le demande et à ce moment-là, il y a Denis Ménochet qui dit « Ben ok, je vais en parler avec ta mère quand je te ramène. » Et là, on comprend en fait comment fonctionne le personnage. C'est-à-dire, il va se servir de ce petit pouvoir qu'il va avoir pour pouvoir l'exercer. Et là, tu te dis, je comprends le personnage, c'est un personnage qui aime le pouvoir. Qui aime le tout petit pouvoir qu'on peut lui accorder. Et qui va l'utiliser comme levier pour pouvoir faire tout ce
qu'il
veut.
N'oublions pas qu'il est chef film va être de sécurité comme ça, dans un hôpital, tu vois. C'est intéressant à savoir.
Ça joue beaucoup, quoi, tu vois. Ouais, absolument. Absolument.
Est-ce que oui, pardon.
Voilà, encore une fois, je voudrais revenir sur le sujet des. Moi, je encore une fois souligner le fait que le sujet des violences conjugales est un sujet qui est très difficile à traiter. Et là, pour le coup, c'est vraiment le home run, quoi. Et surtout, c'est le home run avec 3,50€ de budget. C'est-à-dire que ce film, je pense qu'il a pas coûté grand-chose. Donc c'est très encourageant de voir qu'on peut passer un excellent moment au cinéma, absolument, se sentir vraiment être agrippé au siège avec pas grand-chose. Donc c'est bien la preuve qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire un film exceptionnel, quoi. Du coup, c'est vraiment ça que je trouve vraiment un film très épuré et cette espèce de minimalisme, en fait, du coup, s'en ressent sur la subtilité, la délicatesse avec laquelle le thème est traité. Et ça fait plaisir parce que ça s'oppose vraiment je repense encore à ce César du public là, ça s'oppose vraiment à la Boone, la Danny Boone sphère là. Je suis content qu'il y ait des nouveaux, voilà, c'est un premier film, on l'a pas dit, mais c'est un premier film, il faut le souligner. Voilà, ça fait vraiment plaisir.
Et pour le coup, ça donne envie de voir, imagine, on va dire un thriller classique entre guillemets de quelqu'un comme ça. Donc tu peux te dire. Ça peut avoir une portée un petit peu plus un peu plus forte et peut-être redonner un petit coup de neuf dans le cinéma français sur ce thème-là.
Il y a deux scènes dont je voulais un petit peu parler qui montrent un peu le schéma de fonctionnement de Xavier Legrand sur ce film. C'est il y a une scène qui se passe durant l'anniversaire justement de la grande sœur, que je trouve super bien foutu, c'est-à-dire on a une longue scène qui est faite en plan séquence où un drame se déroule sous nos yeux, mais on n'entend pas ce que disent les personnages. Ça fait qu'on ne sait pas exactement, on ne connaît pas en fait l'information précise qui est là. Tout ce qu'on voit en fait, c'est les personnages qui deviennent agités, tu vois, lors de cette scène, alors que la sœur doit monter sur scène pour chanter parce qu'elle fait partie d'un groupe et elle veut chanter.
Pour chanter, attention, Proud Mary, dont les paroles, c'est une femme célibataire qui s'en va pour vivre sa propre vie, tu vois, et qui ne veut plus être avec. Enfin, bref. Du coup, tu peux.
Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on comprend durant cette scène qu'il y a la mère qui commence à chercher son fils, justement, et on commence à stresser parce qu'on se demande si le père n'est pas arrivé et n'a pas pris le fils, tu vois. Et petit à petit, on va avoir les informations qui nous manquent et on apprend, en fait, que ce qui a déclenché tout ça, c'est que la sœur a reçu un message de son père comme quoi il était dehors et qu'il avait un cadeau d'anniversaire pour elle. Mais ce qui est très très intelligent, c'est la manière d'amener ces informations, c'est-à-dire de montrer l'agitation, de montrer cette tension qui va, avant de donner le punch émotionnel de cette fille qui chante et qui sait que son père est là, qu'elle le déteste, qu'elle a peur de lui et de ce qui se passe autour. Enfin, ça montre vraiment comme ça l'intelligence qu'il a de retenir les informations quand il faut, de les donner quand il faut pour pouvoir créer.
Mais c'est surtout parce que c'est le thème. Le thème, c'est pas le moment où tu te prends une gifle de quelqu'un. Le thème, c'est tu attends la gifle, en fait. Et ça, on le voit dans une autre scène où il sonne à l'interphone. Et en fait, quand il arrête de sonner à l'interphone, tu n'es pas soulagé. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu sais qu'il va ressonner à l'interphone. Et pire, bon, et là, en l'occurrence, il ne ressonne pas à l'interphone parce qu'on entend d'autres bruits dans la cage d'escalier et on se rend compte qu'il est en train de monter. Et je trouve que...
Et là, à nouveau, c'est une scène en plan séquence, ouais. En plus, où on sent l'attente, tu vois, de quelque chose, où on commence à entendre tout doucement d'abord l'ascenseur qui monte et où le personnage et nous, on se dit en même temps, il est en train de monter, il a pu rentrer, il y a un voisin qui a dû l'ouvrir, tu vois.
Et je trouve que c'est extrêmement intelligent et très fin de la part du réalisateur, ce genre de choses, parce qu'il a réussi à faire vivre au spectateur, au moins pendant ces scènes-là, exactement ce que vivent ces personnes qui sont victimes de ce genre de violence, tout le temps, en fait. Mmh.
Tu l'avais évoqué d'ailleurs, Jean-Yves, dans cette scène, il fait quelque chose qui, sur le papier, moi je te dirais que c'est une mauvaise idée et que ça devrait pas marcher. C'est-à-dire qu'au milieu de cette scène extrêmement tendue, en fait, il va changer de point de vue. Ouais. On va avoir le point de vue de police secours. Dans l'idée, je pensais pas que ça pourrait marcher, mais tout d'un coup, il y a quelque chose de terriblement humain qui se passe. C'est-à-dire, on a quelqu'un de très calme, qui connaît son métier, mais qui a affaire à quelque chose. Tu vois, comme ça, on imagine sans doute tous les soirs qu'il a quelque chose à gérer de ce genre-là. Donc, on voit avec le professionnalisme qu'il le fait, mais on voit les rapports qui se développent. Et ça fait écho à la première scène, ça fait écho à cette juge, en fait, qui devait juger, en fait, une histoire qui lui appartenait pas. Et il y a quelque chose de. Enfin, cette scène, cette manière dont il a de changer de point de vue, de finir sur le point de vue de la voisine. De
exactement
voir cette histoire
ça. Qui se déroule mais c'est ça. Elle aussi, même la voisine, c'est ce côté de vous devez quand même intervenir un certain moment pour aider votre voisin, tu vois. D'ailleurs, petit clin d'œil à Le Parrain, quand à toute scène dernière, quand il ferme la porte là comme ça.
La porte qui se ferme. Et voilà, et souligner qu'à nous, à nouveau, cette tension-là, ça peut marcher que si t'as, que si t'as des acteurs impeccables, et c'est un sans faute.
Là,
c'est vraiment un sans faute, ils sont tous...
les signer tous.
Ça fait un petit peu penser cette scène d'ailleurs, à... parce qu'on en a parlé dans la première partie du podcast, mais il y a une scène comme ça dans Sully d'ailleurs, tu sais, où c'est le contrôleur aérien qui gère le crash landing, et c'était un peu la même idée qu'il y avait. Et je trouve que dans toute cette scène, il y a... Je crois qu'un bruit d'ascenseur qui souffle n'a jamais été autant oppressant parce qu'il y a un vrai travail de son. Tu entends tous les petits bruits, les craquements de portes, c'est vraiment ultra, ultra tendax. Et il y a une esthétisation de la vulnérabilité dans cette scène qui, je trouve, est à glacer le sang parce qu'il y a tous les remparts qu'il y a entre lui et elle, en fait, finalement. Même si c'est du dur, ben, ça apparaît comme du papier, en fait. Tu sais qu'il va tout casser, tu vois. Et à chaque fois qu'il y a un verrou qui est fermé, tu te dis, mais non, elle n'est pas en sécurité.
C'est les trois petits cochons, en fait.
Tu sonnes creux.
Tu sais que ça va arriver à un certain moment.
Voilà, c'est ça. Et il y a une espèce de montée en puissance qui est complètement exacerbée par le rapport qu'il a avec ce mec de police secours qui, comme tu dis, est très professionnel. Et je pense il y a quand même un petit message politique aussi, j'ai l'impression, là-dedans, parce que clairement, tu vois, on est dans une période où la police en France se sent mal aimée, se sent délaissée, etc. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment un truc où on dit, ben voilà, il y a quand même des gens pour t'aider, tu vois, parce que c'est quand même ultra clair, les gens arrivent, il y a des gens pour t'aider,
parce que ce qui se passe, c'est qu'on sait que les flics arrivent, mais on sait pas quand. C'est ça tout le suspense de cette scène, en fait.
Voilà. Et tu les entends jamais arriver. T'en peux plus, tu te dis, mais c'est pas possible. Ils ont appelé trois fois. Il y a trois voisins qui ont appelé. Arriver, tu vois. Et jusqu'à la fin, même quand elle est dans la baignoire, qui lui dit c'est fini, ça y est, il y a vraiment. Enfin, c'est assez ouf, quoi. Parce que je sais pas si j'arrive à réaliser la décharge émotionnelle que tu peux avoir quand tu fais ce genre de job, quoi. Enfin, quand t'es régulateur, enfin, c'est horrible, quoi. Enfin, d'être toujours dans la détresse humaine. Enfin, je sais pas comment ces gens font pour tenir, quoi. Enfin, c'est incroyable.
Exomil.
Et avec ce mélange de elle qui arrive pas à dire l'adresse où elle est, tu sais, parce qu'elle a trop d'adrénaline, et lui qui reste calme et qui fait madame, on a besoin de l'adresse si vous voulez.
Et d'ailleurs, c'est assez ouf parce que tu apprends, là c'est pareil, c'est la petite violence des mots où tu apprends via ce mec qu'il a un fusil de chasse parce que tu vois pas qu'il arrive avec un fusil au début.
Oui.
Et en fait, La froideur chirurgicale avec laquelle il l'a dit, il est équipé d'une arme type fusil de chasse. Tu sais, c'est ultra millimétré. Tu dis, waouh, c'est chaud, le gars, un fusil.
Et à partir de là, la tension, cette scène, c'est une lessiveuse, quoi. C'est vraiment tension.
D'ailleurs, rapidement, big up à probablement la police française qui ferait exactement ça. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il serait criblé de balles, ce gars. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. En France, on arrive, en tout cas, on tente de faire ça.
Non, mais je pense qu'il y a eu un vrai travail. Moi, sur l'interview que je vois de Xavier Legrand, il y a un vrai travail de recherche sur la police, sur la justice. Il dit d'ailleurs qu'il y a une vraie violence qui est décrite aussi dans cette scène d'ouverture, parce qu'il explique que quand il assiste. Il a assisté à plein d'audiences de conciliation comme ça, et il dit, donc tu parlais de l'image de la lessiveuse, il dit, mais les gens, c'est la violence du blabla, c'est interminable, c'est ultra formaté par le mot, et les gens sont écrasés par ça, par ce blabla interminable judiciaire de cette finalité familiale, en fait. Et voilà, je trouve qu'il y a aussi, cette violence-là est aussi bien palpable au tout début. Il y a une espèce de formatage qui est écrasant, quoi. Et voilà, je salue vraiment le travail de documentation sur ce film.
Mais il y a quelque chose de beau, c'est-à-dire que c'est, il n'y a pas que le travail de documentation, dans le sens où, en fait, il le réutilise pour en faire quelque chose de cinématographique. Parce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas si on en a déjà parlé dans ce podcast, mais qui commence à m'énerver un peu dans le cinéma français, c'est-à-dire que les gens qui croient que faire de la documentation, ça suffit à faire un film. Et du coup, ça donne les films que j'appelle les films moyennes INSEE. C'est-à-dire, du coup, tu sais, tout dans le film va être dans la moyenne des statistiques de ce qui est montré. Tandis que ici, tu vois, le truc facile, ça aurait été de faire, tu sais, ce style pseudo-documentaire qu'on utilise dans les drames sociaux pour essayer, tu vois, d'être sur le vif, etc. Mais non, en fait, il le reprend avec une précision ahurissante dans sa mise en scène pour en faire quelque chose d'autre. Et moi, ce qui m'a vraiment plu dans le film, c'est ça. C'est-à-dire, il parle super bien de son sujet, mais il le fait avec panache, quoi, et avec des vrais envies de cinoche, quoi, des vraies envies de mise en scène.
C'est ce que, forte. Ce que tu dis, c'est exactement ce que j'avais pas trop aimé dans le film Grave, tu sais, sur cette documentation qui est faite sur le milieu des étudiants en véto. Ou, tu vois ce que je veux dire? Et c'est,
bah là, c'est, voilà,
à trop en faire trop, tu
exactement.
Vois.
Exactement, là c'est tout en subtilité. Ouais.
Et là ça s'oppose vraiment à ça, et c'est vrai, il y a vraiment une vraie utilisation qui est faite. Et d'ailleurs, cette scène d'ouverture est très longue, je me rendais pas compte, mais il dit qu'elle dure 20 minutes.
Attends que ça, sur, ouais. Wow, ouais.
Attends, donc, la scène dans le,
alors avec le, dans l'interview, le juge. Alors j'ai pas vérifié, mais Xavier Legrand, oui, il dit cette scène dure 20 minutes. Non. Alors du coup, ça m'a paru mais énorme. Et en fait, elle est tellement prenante,
oui,
que finalement, ça passe tellement vite que peut-être qu'elle est longue en fait. Ouais, et par rapport à la proportion du film, ça doit représenter peut-être un 5.
Ouais, c'est vrai, c'est peut-être.
Parce que c'est ça qui est fou, c'est-à-dire de mettre une scène comme ça en début de film. Aussi réussi, enfin, il y a beaucoup de gens, genre, ils auraient fait cette scène, ils l'auraient sorti en court-métrage, ils auraient fait My Job Is Done Here,
oui,
tu vois,
oui.
Il y a quelque chose d'un peu... parce qu'elle est vraiment, vraiment ahurissante, quoi, cette scène d'introduction. C'est il pose le truc, quoi, et c'est pas facile de commencer un film
comme
ça.
Non, mais il y a du travail, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'aime bien le côté... les balls de dire « je commence par ça », c'est aussi backup par le fait de dire bah, « en fait, non, c'est parce que j'ai travaillé exactement tous les dialogues de chaque personne et je sais où je vais poser ma caméra pour filmer chaque instant, tu vois.
Non, mais c'est vrai. Moi je pensais aller voir un peu peut-être un, je sais pas si c'est Dardenne ou tu sais, ce genre de film où j'avais vu
exactement, je pensais à ça en fait.
Voilà, c'est ça, tu t'attends à voir un Dardenne, le drame social, voilà, tu sens,
mais chiant,
sans vraiment de surprise, quoi. Voilà,
à la Dardenne, quoi.
Et moi, je voulais parler aussi de... Il y a des scènes qui me restent parce que je les trouve... De la même façon qu'il arrive à cinématographier des choses très intéressantes, très bien documentées, il arrive aussi à cristalliser des émotions humaines, mais avec une précision mais incroyable. Et moi, il y a une scène qui me reste, c'est la scène... du repas qui tourne mal chez les parents du mec, qui finit mal. Il y a une scène de repas qui finit mal. Et je pense que cette scène en vrai se passerait exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de cette tension qui monte avec le papa, le grand-père du coup, qui dit allez arrête, c'est bon, laisse tomber. Et c'est allez arrête. Et ça monte. Et là, ça part dans les tours. Et là, c'est terminé. Il y a plus rien à faire. Et je suis persuadé que cette scène se serait passée comme ça en vrai aussi. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment plusieurs moments dans le film où il y a des scènes de détresse. Il y a vraiment de la détresse. Et c'est chirurgical dans sa manière de le rendre à l'écran.
Scène qui révèle des choses aussi, encore une fois, très avec finesse, parce que il y a les paroles un peu dures, voilà, du grand-père, tu vois. Et là, tu te dis, ah bah oui, mais en même temps, c'est un peu normal qu'il soit un peu foutu, quoi, le père. Si quelqu'un est capable de dire ça à son fils, tu vois. Donc, voilà, tu vois comment ce
genre
de choses-là.
Encore une fois, c'est cette manière en creux de faire exister le passé, quoi. Qui est très très forte.
Moi j'adore
films,
ça en plus, les sous-entendus. J'ai pas besoin qu'on me dise des choses, j'aime bien voir ça.
Y a la,
non, mais parce qu'en plus, donner cet effet de répétition alors qu'on a vu une scène qu'une seule fois. Il y a beaucoup de gens que pour donner un effet de répétition et de cycle, ils auraient dû construire la première scène, la variation de la scène et une conclusion dans une troisième fois, tu vois. Et en fait, lui, il a pas besoin, il le fait vivre par ses acteurs et les scènes, on les voit qu'une fois, tu vois.
Là, le personnage de la... Je sais pas si c'est précisé, mais j'imagine que c'est la sœur du personnage de Léa Drucker qui, tu sais, c'est à la fin, quand il y a une espèce d'agression, quand il la plaque contre la voiture, elle vient les séparer. Je crois que c'est la sœur du personnage féminin. Et c'est pareil, elle, tu dois la voir à tout casser 3 minutes dans le film, mais elle arrive à faire à transmettre quelque chose de très fort qu'elle a vécu avec ce personnage. Ce que tu disais de...
Ça vient de quelque chose aussi. Il faut rappeler un truc, c'est que Xavier Legrand, en fait, il est acteur à la base, et on le sent un petit peu dans le film, dans le sens où je le sens qu'il a utilisé tous ses contacts dans le milieu des acteurs pour prendre que des bons acteurs pour jouer même les rôles les plus courts, tu vois, les plus insignifiants. Et je sens ce travail-là, en fait, tu vois, de connaître des gens qu'on n'a pas vus, mais que lui connaît dans le milieu du théâtre ou de quelque chose comme ça, tu vois. Il connaît les acteurs qui peuvent jouer les rôles. Et je pense que ça sert vraiment beaucoup le film, ça.
Non, mais c'est vrai, les tous les personnages secondaires sont vraiment exceptionnels. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le casting qui est fait. Ça s'explique très bien par ce que tu dis, c'est qu'il y a quelque chose de il y a un perfectionnisme. On sentait chez le gars cette espèce de perfectionnisme à chercher l'acteur parfait. Tu vois, il y avait vraiment un souci du détail vraiment très fort chez lui. Et ça s'en ressent. Même le gars, tu vois, même le gars qui va jouer deux secondes quand ils sont en train de s'embrouiller autour de la voiture et qui dit excuse-moi, je peux parler avec ma femme. Même le gars qui dit c'est bon, ça va. Même lui, il joue trop bien, tu vois. Même le gars qui dit juste ça va, c'est bon. Même lui, il joue trop bien. Donc, tu vois, il y a vraiment, c'est un vrai home run ce film.
Oui.
Je suis très content.
Très important.
Ouais. Je pense que je vais le revoir. Je pense que je vais le revoir. Et je pense que le revisionnage doit être intéressant parce que du coup, comment tu revois ta première perception d'avoir eu envie de donner une chance à ce père,
oui.
Tu vois.
Et
comment
oui,
tu le revois au deuxième visionnage. Ça, c'est pas mal, je trouve.
En tout cas, j'aime bien parce que souvent, ça a été un peu une surprise pour nous trois, ce film. Et c'est vrai que ce genre de film, généralement, on n'en parle pas dans le podcast parce qu'on n'anticipe pas que le film va être bien et que du coup, on doit faire
parce
une émission sur ça.
Parce qu'on est trop cynique et on est trop blasé par la vie.
Exactement. Et là, on a fait un peu la cellule de crise, cellule d'urgence.
Vite, il faut aller voir ce film.
Où Jean-Yves a dit hier, bon, je vais voir jusqu'à la garde, vous faites ce que vous voulez. Du coup, moi, je pense que je serais allé voir un autre film, mais je suis allé le voir. Et après, on a fait pression sur Areski avec Jean-Yves pour lui dire, il faut absolument qu'on parle du film dans le podcast.
Voilà.
Demain.
Du coup, j'ai vu ça. Non, mais clairement, une bonne surprise. Moi, je lui donne 4 miams avec une possible commission qui peut le réévaluer dans l'année.
Moi, j'y donne 4, voire 4,5 aussi. Ouais. Gros coup de cœur pour le film.
Ouais, moi, je vais mettre 4 burgers, 1
avec de la sauce.
Et 1,5 de bacon et de champignons rissolés. Voilà, c'est donc un 4,5 gourmand avec les petits goodies gourmands. Et du coup, ça me fait penser, parce que j'en ai parlé à Arnaud hors podcast, mais parce que ça sort en VOD en Blu-ray, mais ça me fait penser que je vous conseille vraiment de voir un film français pareil, un premier film français qui s'appelle Petit Paysan et qui est un excellent film parce qu'il aborde aussi l'hybridation des genres et c'est pareil, on croit que c'est un petit drame qui se passe sur une exploitation agricole, mais il y a un petit tour de force qui est fait pour changer.
Tu en as déjà parlé dans l'avant-dernier épisode, par contre. Je suis désolé.
C'est vrai, ben je le redis. Non, mais voilà. Je le redis parce que là, pour le coup, ce film fait vraiment penser.
Tu as raison. Tu as raison.
À voilà, celui-là.
J'en profite pour donner. On va terminer cet épisode par une mauvaise nouvelle parce que en direct, le 10 février, 21h12, le compositeur Johan Johansson est décédé à 48 ans. Donc c'était celui qui a fait Prisoners et Sicario, enfin la BO de ces deux films et de Contact d'ailleurs. Donc en gros, qui a tout le temps bossé avec Denis Villeneuve et non, mais justement, il avait plus travaillé du coup sur Blade Runner, peut-être à cause de, je sais pas, de problèmes de santé, mais voilà, en tout cas, c'est dommage, vous pouvez réécouter toutes ces BO. Moi, j'adore me mettre Sicario en fond quand je fais tu sais, quand j'attaque le cartel, quoi, en général.
Ça avait été très énigmatique, du coup, j'ai jamais trouvé la réponse.
Moi non plus, ouais, du coup, j'imagine que. Ouais.
Mais sur Blade Runner, il y a un énorme point d'interrogation sur pourquoi. Il n'a pas pris ce compositeur pour faire la musique de.
Ouais, ouais, on en avait parlé d'ailleurs dans les news. Quoi. On se disait, ouais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était les producteurs qui avaient fait pression? Ouais. Et en fait, voilà. Je pense qu'il y avait quelque chose.
En fait, c'était peut-être là. Voilà.
Sur cette note magnifique, hein, voilà. Écoutez, fin de séance, bonsoir. on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et d'aller écrire un commentaire et 5 étoiles sur iTunes. Je sais que vous vous dites, les gens ils écoutent ça, ils se disent je vais pas le faire parce qu'il y a d'autres personnes qui le font. Mais en fait, personne le fait. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Léa Drucker meurt si vous le faites pas. Donc, vous allez écrire.
Et passer à côté d'avoir peut-être du super merchandising, puisqu'on est toujours dans les tuyaux de mettre des mugs fin de séance avec les personnages de fin de séance avec leur punchline. Donc voilà, allez mettre des avis sur iTunes et vous aurez peut-être un superbe mug.
Moi je dis à 40 critiques iTunes, je commence à créer les merchandising avec les t-shirts et tout ça. Ça y est. Ça y est, c'est décidé, vous l'avez écouté, ici.
C'est dit, c'est acté, vous êtes témoin.
Allez, très bien. Plus que 18, du coup, allez-y. Bon, allez, bisous à tous, à la prochaine.
Bye.